Il a toujours posé cette question: où est l'espace des libertés possibles?
Je dirais que nous naissons déterminés et nous avons une petite chance de finir libres.
Prénom?
Pierre.
Nom?
Bourdieu.
Date de naissance?
1930 à Danguin dans les Pyrénées-Atlantiques. Une famille rurale, modeste. Son père était facteur receveur des postes.
Études?
Interne au lycée Louis Barthou de Pau, dont il gardera un moins bon souvenir que François Bayrou. Reçu en 1951 à l'école normale supérieure, il y portera parfois, par provocation, la blouse grise du petit chose. Et 1954, agrégation de philosophie.
Service militaire.
En Algérie, en pleine guerre, dans l'administration du gouvernement général, avec dégoût. Mais son goût de l'Algérie le pousse à y rester volontairement. Il publiera un Que sais-je, sociologie de l'Algérie.
Sa carrière universitaire.
Il est d'abord protégé par Raymond Aron, puis il vole de ses propres ailes jusqu'à atteindre en 1981 le sommet, le Collège de France.
Ses œuvres les plus connues.
Alors il faut distinguer les œuvres en collaboration, Les héritiers, La reproduction, avec Jean-Claude Passeron. Les livres en solo, La distinction, et une enquête manifeste sous sa direction, La misère du monde.
C'est le moment de l'engagement.
À sa manière, pendant notamment le grand mouvement de 1995 où il va attirer beaucoup l'attention.
Et sa mort?
2002, en pleine gloire, à 71 ans.
France Inter. Intelligence Service. Jean Lebrun.
Sachez, Monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Je vous écoute.
Dans le petit espace que je vois, je m'effraie et je m'étonne. Pourquoi suis-je ici plutôt que là? L'hommage que le Théâtre de la Colline a organisé tout de suite après la mort de Bourdieu, auteur de méditations pascaliennes, a commencé par la lecture de cette pensée. Bourdieu n'a pu oublier qu'il était d'abord un philosophe. Il présentait non sans coquetterie son passage à l'ethnologie et à la sociologie comme un déclassement. Il n'a pas non plus oublié son Béarn natal, d'où sa destinée de transfuge l'avait extrait un peu comme par miracle. L'un de ses premiers textes est d'ailleurs consacré aux cultivateurs qui sont restés sur place. Les expériences qu'ils ont engrangées, autres que les siennes, se sont inscrites dans leur corps propre. Bourdieu identifiera cette réalité physique comme un habitus. C'est un des concepts que met en valeur un dictionnaire Bourdieu qui vient de paraître aux éditions du CNRS sous la direction de Gisèle Sapiro. Elle sera notre première interlocutrice. Elle nous entraîne au milieu des Béarnais qui font tapisserie au bal sous l'œil de Bourdieu.
Quand il observe ce bal, il voit les célibataires debout se tenant un peu gêné, mal à l'aise, un peu pâteau sur le côté, alors que les filles du village dansent avec les garçons de la ville. Et cette scène, en fait, symbolise la dévaluation, en fait, de tout ce qui faisait la valeur de ces paysans, c'est-à-dire leur enracinement dans la terre, leur force physique, tout ce qui était des caractéristiques positives deviennent, en fait, des handicaps qui sont symbolisés par cette incapacité à danser avec les filles qui vont quitter et qui vont partir, parce qu'eux sont attachés, l'héritage, il est terrien, c'est la terre, donc ils ne peuvent pas bouger.
Les jambes, les bras aussi, pleins d'impératifs engourdis. L'habitus, nous dit Bourdieu. Et la mobilité? Lui pense peut-être l'avoir trouvé en devenant professeur dans un lycée. L'expérience, qui ne l'a sans doute pas réconcilié avec l'enseignement secondaire, dure peu puisqu'il est appelé en 1956 en Algérie. Non à un poste combattant, mais dans l'administration. Le moment est très difficile. Il décide pourtant de rester dans le pays, en civil. Il est nommé à un poste d'assistant à la faculté d'Alger et il commence des enquêtes en milieu paysan qui feront plus tard symétrie avec ses textes sur le Béarn. Gisèle Sapiro.
Et donc, il se plonge dans une étude vraiment, des études empiriques de la société kabyle, puis des sous-prolétaires algériens, puis avec Abdelmalek Sayad, le déracinement sur les regroupements urbains qui sont opérés. Et donc, il interroge le rapport au capitalisme quand celui-ci est imposé de l'extérieur par la force coloniale et comment les individus arrivent à s'ajuster ou à ne pas s'ajuster en fait à ces transformations sociales.
On peut entrer avec lui dans la maison kabyle.
Absolument. Et c'est son article en hommage à Claude Lévi-Strauss. C'est son article, on peut dire, le plus structuraliste. C'est un très bel article qui montre comment la maison kabyle est organisée entre le pôle, le côté humide, obscur, et le côté lumineux, enfin éclairé, lumineux, sec. Et tous les objets font sens par rapport à ce clivage qui correspond au clivage masculin-féminin et qui est aussi le dedans, le dehors. Voilà.
Mais il va toujours fonctionner par pôle.
Alors c'est ce qu'il a retenu de la de l'anthropologie structurale, c'est ce raisonnement par pôle qui dynamise en même temps parce qu'il ce sont des pôles, mais ce sont aussi des luttes.
Alors le mot pôle a donc son importance. Dans tous les champs, le mot champ a son importance. Que va explorer Bourdieu ? Il y a des pôles, des tensions entre les pôles, des luttes possibles. L'Algérie restera au cœur de Bourdieu, mais il est préférable de la quitter. En 1960, à Paris, Raymond Aron l'a repéré.
Il entre en contact avec Raymond Aron, qui s'intéresse tout de suite à lui. Et quand il commence à se sentir en difficulté en Algérie, Aron décide de l'aider à sortir de là. Il intègre, il est en train de créer le Centre de sociologie européenne et l'intègre dans ce centre. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il va devenir sociologue, puisque en Algérie, il était plutôt ethnologue. Aron, donc, le fait rentrer au centre. Très vite, il devient...
Aron, juste une parenthèse, par position rationnelle, plus que... par choix premier et partisan de l'indépendance de l'Algérie.
Oui, absolument.
Il faut le dire quand même.
Oui, absolument, parce que c'est absolument important dans ce...
Dans le rapport qu'ils ont eu.
Dans le rapport qu'ils ont eu, oui, ouais. Absolument.
Alors le voilà à Paris, chez Aron.
Et donc là, il a un poste d'enseignant à Lille, et en même temps, il devient secrétaire général de ce centre, et très vite directeur adjoint, hein, en 64. Il est aussi élu à ce moment-là à l'école des études en sciences sociales comme directeur d'études.
C'est-à-dire qu'Aron, il avait un plan prévu pour Bourdieu, et il pensait qu'il pouvait faire une grande thèse qui relierait sociologie et philosophie.
Bourdieu avait un projet de thèse sur la culture, en fait. Il a un très vaste projet pour repenser la notion de culture à partir de l'anthropologie anglo-américaine qui pense la culture au sens large, c'est-à-dire que tous les faits, les mœurs, les croyances. Cette thèse, il ne l'a pas réalisée comme... Il n'a pas fait la grande synthèse théorique, mais on peut dire que cette thèse sous-tend tous les travaux qu'il engage à ce moment-là, puisqu'il engage des travaux empiriques sur la culture en France à cette époque, au moment où se crée un ministère des Affaires culturelles, au moment où la culture devient un objet de consommation pensé comme tel, et au moment où il y a des enquêtes qui se lancent sur ces questions.
Et Bourdieu a préféré voler de ses propres ailes, emmenant avec lui des membres du labo d'Aron. Aron a conçu un véritable chagrin. Après coup, Bourdieu a privilégié une explication. Mai 68, Caron avait fortement critiqué, mais où Bourdieu ne s'était que modérément engagé. C'est cet événement qui aurait rendu les positions de l'un et de l'autre inconciliables. Sans doute. Enfin, de toute façon, ils n'avaient pas la même vision, celle de Bourdieu était plus pessimiste, de la vie universitaire.
Je viens d'un tout petit village du Béarn, du sud-ouest de la France, bon, et d'une famille de tout petits fonctionnaires. Bon, mon père a accédé à la fonction publique très tard, après avoir passé, 25 ou 30 premières années comme fils de petits métayers pauvres. Bon, et il a donc été toujours dans une position tout à fait inférieure, quoi, dans le monde de... y compris dans ce monde inférieur qu'est le monde rural. Voilà. Bon, donc mon enfance est marquée par une expérience de l'inégalité sociale, de la domination, et je pense que je n'en ai tiré aucun ressentiment. Au contraire, je n'ai que, en général, les gens qui sont dans ma position, qui ont fait des trajectoires qu'on peut appeler foudroyantes, qui viennent du plus bas pour aller au plus haut, en général, ils sont très heureux du monde social.
C'est vous qui parlez de la trajectoire du miraculé, donc.
Oui, c'est ça. Les miraculés, ils sont très heureux. En général, ils sont très conservateurs. Ils adorent le système scolaire. Ils trouvent que le système est très bien puisqu'il les a reconnus. Ce qu'on ne voit pas, c'est que précisément, je suis, ce qui fait problème, c'est que
que je ne sois pas un universitaire heureux.
Vous insistez toujours sur ce privilège de l'intellectuel, hein,
oui.
Et sur les comptes qu'on a à rendre quand on est un intellectuel.
Oui. Ah ben ça, alors ça, c'est une autre expérience, alors très 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 forte, parce que c'est des choses que je mets comme ça dans les coins de mes écrits, pour souvent dans les notes, quoi, parce que bon, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je ressens très fortement. Alors là, je l'ai éprouvé de la manière la plus forte, enfin, je pense, c'est quand je suis entré à l'école normale. Il y a deux moments. C'est quand je suis entré à l'école normale et quand j'ai été nommé au Collège de France. C'est les deux moments où je me suis senti... Bon, alors ce sont des choses qui peuvent paraître ridicules. Je ne sais pas pourquoi je raconte ça.
Sur le porte-à-faux.
Oui, sur le porte-à-faux. Qui font que, c'est vrai, ma situation à l'école normale, c'est très bizarre. Je me sentais formidablement mal. Par exemple, je parle trop là, mais en deux mots, il y a un très très beau, c'est le texte de Sartre que j'aime le mieux, pour lequel tout le reste lui sera pardonné. C'est le texte qu'il a fait sur Nizan, la préface à Aden Arabi, bon, dans lequel il dit Nizan, t'es comme ça, puis il partait, il biturait pendant trois jours. Et moi, j'avais pas lu Nizan, j'ai lu Nizan très très tard, et j'ai retrouvé, mais alors vraiment, presque mot par mot, enfin, il dit Nizan s'indignait parce que ses camarades pensaient au bal de l'école normale et se demandaient laquelle des sœurs de leur pas, il a été épousé, il se voyait déjà professeur dans les grandes institutions universitaires, etc. Bon, enfin, tout ce qui était dit de l'expérience de Nizan par Sartre, c'est des choses que j'avais vécues, mais presque dans les mots même, dans les termes même. Voilà, alors cette expérience qui était indicible en plus, parce que à la fois j'étais donc miraculé, et les miraculés, on leur demande de dire tous les jours merci du miracle. Enfin bon, donc à qui pouvais-je dire ça? Il y avait quelques copains avec qui je pouvais penser qu'ils le pensaient aussi, qui d'ailleurs je l'ai découvert après, ils se trouvaient toujours être provinciaux, juifs, etc. Enfin, déjà on savait même pas, on se demandait jamais ni la profession de papa, ni quoi que ce soit, mais bon, voilà. Alors j'avais un sentiment très 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 bizarre, et en même temps très très refoulé, parce que la force du système scolaire est si grande que quand je prenais le train pour retourner dans le Béarn, arrivé à Mont-de-Marsan, je pouvais plus supporter, ça me rendait fou, rien d'entendre les gens, l'accent, c'était une espèce de vulgarité, enfin, bon, je sentais du dedans, voilà.
S'il est un chant qui retient par priorité l'attention de Bourdieu, comme lieu de son analyse, comme arène de sa carrière, c'est donc le chant universitaire, avec des pôles. Ici, les héritiers et les oblats, ce sont des mots qu'il utilise aussi dans l'étude de la hiérarchie catholique. C'est l'intérêt des chants. Les schèmes sont transposables d'un chant à l'autre. Les oblats, par exemple, de vieux agrégés qui ont longtemps porté le harnais, qu'un grand professeur attire dans son orbite, mais comme simples collaborateurs, ils sont à ce point éblouis qu'ils en deviennent les ravis de la crèche université. On peut compter sur eux pour grossir le pôle conformiste. En face, il y a un pôle d'indépendants, ou du moins qui se considère comme tel. Quant aux établissements qui servent de couveuses à la noblesse d'État, ils sont à ce point aveuglés qu'ils ne voient pas qu'ils reposent sur l'arbitraire culturel le plus rassis.
Monsieur, vous êtes ici pour concourir à l'examen d'entrée à la prestigieuse École des sciences politiques de Paris.
Vous vous apprêtez à passer dans quelques instants l'épreuve ultime de ce concours.
L'épreuve la plus célèbre.
La plus intransigeante.
L'entretien oral.
Qui vous permettra
peut-être
d'intégrer le cercle privilégié.
La crème de la crème.
De l'élite intellectuelle française.
Monsieur, vous avez exactement 10 minutes pour nous parler de l'amour.
Monsieur, le temps qui vous était imparti
est maintenant écoulé.
L'entretien se termine donc. Pour votre information, veuillez savoir que l'amour est un fleuve d'Extrême-Orient de 4354 km.
Le troisième plus grand fleuve du globe, formé par la réunion de l'Argoun et de la Tchika.
Il sert de frontière entre la Sibérie et la Chine du Nord-Est, et se jette dans la Manche de Tartarie.
Alors on sait que depuis Sciences Po s'est repenti et s'est employé à le faire savoir. Au concours dorénavant, plus d'épreuves écrites anonymes, le grand oral remplacé par une performance où l'impétrant fera valoir ses motivations. Le milieu des sciences politiques que Bourdieu n'avait pas cherché à investir beaucoup est curieusement l'un de ceux qui lui reste très favorable. Mais dans le champ de l'éducation, c'est celui du secondaire où il a fait vraiment mouche. Dès 1964, il publie avec Jean-Claude Passeron Les Héritiers. Les étudiants du baby-boom, futurs professeurs, en disputent avec passion dans les amphis de la Sorbonne de 68. Et les deux compères récidivent en publiant peu après La Reproduction. Immense succès, des longs sellers. Bourdieu a vendu la mèche. La création progressive d'un enseignement secondaire de masse augmente-t-elle vraiment l'égalité des chances? Ou n'est-elle qu'un miroir aux alouettes? Et les enseignants qui ont passé les concours ne perdent-ils pas la position à laquelle ils sont parvenus parce qu'ils sont trop nombreux à y être arrivés? Alors aujourd'hui, les termes de l'analyse du secondaire sont bien différents, mais l'interprétation de Bourdieu a dominé pendant au moins deux générations.
Monsieur Lebrun, le vocabulaire de Bourdieu concernant la reproduction sociale par l'enseignement est devenu commun, même s'il a fini par provoquer une réaction. Les thèses de la distinction, un livre de 1979, ont suscité tout de suite davantage de contestations. Bourdieu y questionnait les causes des préférences esthétiques. Un des domaines abordés, la musique.
France Inter. Intelligence, service.
Oui, si vous dites que vous aimez Gershwin, ou bien la Traviata par la Callas, ou bien les valses de Strauss, attention, vous êtes peut-être inconsciemment classé. La musique est socialement distribuée selon des classements qui se raffinent à l'infini. À la différence de la photographie à laquelle Bourdieu a consacré un livre singulier où il la présente comme un art moyen. Entendez, un art où la moyenne et la petite bourgeoisie se trouvent à l'aise. Il l'a lui-même pratiqué, par exemple, en Algérie. Mais il y a aussi des manières différentes d'apprendre les manières. On revient à l'habitus. Plus les membres d'une classe veulent marquer leurs différences, plus ils cherchent des innovations subtiles. Ce livre, La Distinction, paru donc en 1979, a dû apprendre beaucoup d'un film antécédent, le charme discret de la bourgeoisie.
On verse le gin, voilà. On agite un instant pour bien rafraîchir et on sert. Raphaël sait bien que le dry martini se boit comme le champagne, il faut le mâcher un peu. Oh, tenez, nous allons faire une expérience intéressante. Va chercher ton chauffeur.
Mon chauffeur, qu'est-ce que tu lui veux?
Vous allez voir.
Maurice, vous pouvez venir un instant?
Tout de suite, Excellence.
Passé. Maurice, nous serions heureux que vous preniez un verre avec nous. Tenez.
Merci, monsieur. À votre santé, messieurs, dames.
À la vôtre, Maurice. À la vôtre. C'est très bien, Maurice. Vous pouvez vous retirer. Merci.
Bonsoir, messieurs, dames.
avez vu? C'est l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire avec le Martini Dry.
Il faut être indulgent. Maurice est un homme du peuple. Il n'a pas eu d'éducation.
Aucun système ne pourra jamais donner au peuple tout le raffinement souhaitable. Et pourtant, vous me connaissez. Je ne suis pas un réactionnaire.
Alors, s'il y a un point commun entre Buñuel et Bourdieu, c'est que l'un et l'autre, Bourdieu avec son livre La Distinction, par exemple, aime poser des bâtons de dynamite.
Je pense, enfin, là je n'ai pas toutes les explications, mais je crois que la culture dans nos sociétés est un des lieux du sacré, c'est-à-dire que la religion culturelle est devenue, pour certaines catégories sociales, dont les intellectuels, le lieu des convictions les plus profondes, des engagements les plus profonds. C'est-à-dire que, par exemple, la honte de la gaffe culturelle, etc., est devenue l'équivalent du péché. Bon, je pense que l'analogie avec la religion peut être poussée très loin. Il y a une certaine corrélation entre la religion qu'on a acquise dans sa famille et la religion que l'on professe. Donc, on ne peut pas nier qu'il y a une transmission de père en fils des convictions religieuses, que quand cette transmission disparaît, la religion disparaît. C'est-à-dire, bon, ce sont des choses que tout le monde accorde. Bon, mais quand on le dit sur la culture, on enlève à l'homme cultivé un des fondements du charme de la culture, à savoir l'illusion de l'innéité, l'illusion charismatique. C'est-à-dire, j'ai acquis ça par moi-même, par la naissance, c'est comme une espèce de miracle. Alors toutes ces choses-là expliquent la violence des résistances. Bon, voilà.
L'intellectuel français, par exemple, il éprouve des difficultés à reconnaître les chaînes qui le retiennent à des structures sociales. Bourdieu dit qu'à trop parler de sa liberté, il s'entretient dans l'illusion de la liberté. Quant au créateur, qui se voit incréé, fils de ses œuvres, certain de sa capacité à se sublimer, Bourdieu s'emploie à lui dessiller les yeux. Mais une sociologie qui expliquerait tout par la condition sociale serait un peu courte. Bourdieu construit toujours des systèmes qui supportent les exceptions. On peut même dire que les exceptions les supportent. Le philosophe Philippe Reynaud va intervenir maintenant. Tout adversaire de Bourdieu, qu'il va vous apparaître rapidement, il reconnaît cette capacité à isoler des exceptions.
Parmi les choses que je trouve les plus intéressantes de ce qu'il a écrit et qui sont peut-être moralement estimables, ce qui n'est pas toujours le cas chez lui, il y a tous ces livres un peu, enfin pas très légers, mais quand même documentés sur la manière dont les milieux littéraires et artistes ont organisé leur autonomie par rapport à la demande sociale, par rapport au mécénat traditionnel, etc. Je trouve que tout ça est pas mal vu, et ça, comment dirais-je, certains grands romanciers, comme Stendhal ou Flaubert, étaient pour lui de méritoires précurseurs, ou quelque chose comme ça. Et puis, il y a une intelligence sociologique chez Flaubert, chez Stendhal, qu'il cite assez souvent, si je me souviens bien. Je prends le souvenir d'un texte assez bien vu sur la manière dont Stendhal décrit l'apprentissage des manières au séminaire de Besançon, dans le Volet Noir, enfin, c'est...
Proust, l'analyse des manières chez Proust.
Oui, sans doute, oui. Il y a une tradition, pour parler un peu comme Bourdieu, de connivence entre la bonne société, une certaine image de la littérature. Il est assez normal qu'on soit en contrepartie fasciné par ceux qui ont tout à la fois... affirmer les droits de la création littéraire, bouleverser les conventions académiques, et produit une critique appuyée sur une longue familiarité des conventions sociales aristocratiques. C'est pour ça que Proust, c'est d'ailleurs intéressant, parce que c'est comme cela que Proust est devenu un écrivain légitime... non seulement dans la gauche modérée, où il a tout à fait sa place, mais dans une extrême gauche assez radicale, dont on pourrait penser qu'elle n'a pas beaucoup d'intérêt pour les histoires du Faubourg Saint-Germain, ou même pour les fréquentations du Baron de Charlus.
Donc il est des grands écrivains, Flaubert, Proust, qui ont élargi l'espace des possibles. Pour prendre un exemple dans un autre art, Manet n'a pas provoqué seulement un élargissement, il a subverti la peinture. Il peut y avoir des révolutions symboliques. Tout n'est pas clos. Et puis tout est ouvert à la curiosité et à l'investigation des sociologues bien organisés.
Si discuté soit-il, Pierre Bourdieu est élu au Collège de France en 1981. Sa chaire est un des éléments de sa puissance dans le champ académique, Monsieur Lebrun.
C'est un dispositif efficace qui a été mis au point, en effet, la chaire du Collège avec les amitiés qui s'y nouent, l'école des hautes études en sciences sociales avec une constellation de directions d'études complices, la revue Actes de la recherche en sciences sociales avec son graphisme de si belle facture. Bourdieu aime parler d'intellectuel collectif. Alors Philippe Reynaud, toujours.
Je crois que c'est du vent. Et quant à la pratique collective, si vous voulez, c'était un chef d'école qui a réparti les tâches de ses élèves entre divers domaines, etc. Bon, c'est pas le seul, si vous voulez. C'est-à-dire que, il me semble, si vous voulez, qu'il a eu le type de pratique directoriale, je ne dirais pas mandarinale, parce que ça lui plairait pas, mais enfin, je vois pas de différence de nature, si vous voulez, entre sa manière de travailler et celle de ses rivaux, Crozier ou Touraine, si vous voulez. Il y a une galaxie autour d'un petit milieu, d'un laboratoire, des gens qui ont des deux ou trois idées en commun et qui font des livres dans le même sens. J'ai pas du tout fréquenté son laboratoire, mais j'en ai eu quelques échos comme ça. Bon, j'ai l'impression que on a affaire à un chef extrêmement directif, si vous voulez, et un chef extrêmement directif et qui ne favorise pas l'individualisation de ses collaborateurs. C'est pour ça d'ailleurs que j'imagine que c'est pour ça qu'il y a eu tant de clash avec des gens comme Passeron, comme Boltanski, comme d'autres encore. Il y a des gens, si vous voulez, qui dirigent des entreprises de recherche, si vous voulez, et qui organisent la répartition des produits entre les filiales, les PME, etc. Il me semble que Bourdieu fait partie de cette catégorie. C'est-à-dire, il suffit, si vous voulez, de lire, ça fait longtemps que je ne l'ai plus, mais enfin les premières années d'actes de la recherche en sciences sociales étaient quand même très caractéristiques, c'est-à-dire que les articles qui n'étaient pas de Bourdieu avaient été écrits par des gens qui faisaient en sorte qu'on puisse croire qu'il avait été écrit par Bourdieu. C'était le modèle absolu de ses élèves dans la manière de construire l'objet, comme on dit, etc.
Oui, mais attention, un champ, c'est pas un marché. Et puis, avant que l'intellectuel collectif ne s'organise vraiment, dès 1980, Pierre Bourdieu avait posé un acte singulier qu'il avait différencié de pas mal de ses collègues dans le milieu universitaire. Il avait soutenu Coluche quand celui-ci avait voulu intervenir dans la campagne présidentielle.
Je ne compte pas régler les problèmes, moi, parce que je ne me présente pas avec un programme, je ne demande pas à être élu. Moi, pour l'instant, ce que j'ai, c'est un cahier de charges. Les 1 500 000 chômeurs, comme les PD, comme les nègres, comme tous les parasites, les faiseurs de patins roulettes, les appelés du contingent et tout ça, sont des gens qui, pour l'instant, sont rejetés par la société et qui ne valent rien vis-à-vis des hommes politiques, même de gauche. Donc je veux que ces gens-là, une fois pour toutes, sachent qu'ils existent et qu'ils ont une voix et qu'ils sont nombreux. Même si ça sert qu'à ça, je veux que ça serve à ça.
Misère. Misère, je vous le dis tout de suite, c'est le nom qu'un type a donné à son chien, parce que il est comme lui, il l'a trouvé dans la rue, si vous voulez, et que il est comme lui, alors il le comprend, parce que comme il est né dans la rue aussi, il le comprend. Je me comprends. Des fois, on a plus de contact avec un chien pauvre qu'avec un homme riche, hein. Larme dans la gueule. Misère. Misère, misère, c'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément. Misère, misère, tu te fais l'allié des pourris, des pourris. L'argent ne fait pas le bonheur des pauvres. ce qui est la moindre des choses. Convenons-en, convenons-en.
France Inter.
Et voilà.
Intelligence, service, Jean Lebrun.
Misère, misère. Alors l'intellectuel collectif a fini par se parfaire, intégrant dans son réseau, Libère, Raison d'agir, et il va s'appliquer à la préparation d'une grande enquête sur la France qui va paraître en 1993, Misère du monde. Bien d'autres publications depuis ont documenté ce qu'on nomme communément aujourd'hui l'archipélisation du pays, mais celle-ci était pionnière. Elle identifiait un puissant mouvement tectonique qui éloignait peu à peu les Français les uns des autres. Alors le titre, la misère du monde. La misère, dans le vocabulaire populaire, c'est pas seulement le manque d'argent, c'est un poids qu'on porte et qui vous empêche de remonter votre pente, vous renvoie en bas de la vie. Le titre, misère du monde, c'est lourd, mais les entretiens menés tous azimuts que regroupe le livre sont empathiques et même souvent toniques. Bourdieu en a mené quelques-uns, se réservant ceux avec les paysans du Béarn. Enfin, les paysans du Béarn de sa génération, Maëva Louis, en a rencontré de plus vieux encore, Prosper et Florentine.
Prosper et Florentine habitent en hameau du petit village béarnais de Susse, 350 habitants, dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Prosper et Florentine sont de vieux paysans.
Pourquoi vous gardez encore deux vaches ?
Pourquoi je le garde ? Rien faire, je m'occupe, moi je ne connais rien.
Mais vous en faites quoi des vaches ? Après vous les faites inséminer ou pour hein? avoir... Vous allez les faire inséminer pour avoir...
Ça sort.
Elles en sont déjà, là?
Je savais que la corne vilaine va avoir le beau au début de mai, au début de mai.
C'est difficile de poser les bonnes questions. Se sont-ils mariés parce qu'ils s'aimaient? Pas vraiment, on a choisi pour eux. Auraient-ils voulu d'une autre vie? Prosper, je pense qu'ils n'auraient pas su quelle autre vie choisir. Florentine, elle, ça ne lui aurait pas déplu de faire des études, d'habiter en ville. Mais il fallait attendre que les parents meurent pour vivre à sa façon. C'est ce qu'elle m'a expliqué. Quand sa mère est morte, à 93 ans, Florentine en avait 72. Elle dit qu'elle s'est sentie piégée.
On était considérés comme des idiots. On était très arriérés, même moi, pour ma retraite et pour beaucoup de choses. On ne s'est pas éclairé du tout, du tout. Normalement, il faudrait tout vendre et tout. Maintenant, ils ne veulent plus voir les petites exploitations. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas faire perdre les enfants et tout bazarder à travers et à travers. Ça ne se fait pas. Après, nous, on est au bout du rouleau. Il ne faut pas regarder en arrière.
Et maintenant, Bourdieu décrit ses propres interlocuteurs, dans le Béarn toujours.
Doté à l'origine d'un minuscule patrimoine, Henri F. et Pierre L. ont pu étendre leur exploitation au prix d'investissements immenses en argent, grâce au crédit, et surtout en travail. Et accumuler un capital relativement important sous forme de terres et surtout de bâtiments, d'outillages et de cheptels. Ils sont aujourd'hui habités par la contradiction. Capitalistes, ils ne peuvent réaliser leur capital ou seulement avec un coût de sortie immense, tant psychologique qu'économique. Ils ne disposent que de très peu de liquidités et leurs revenus sont plus proches du salaire d'un OS que de celui d'un ouvrier qualifié. Salariés déguisés d'une entreprise de laiterie qui a le pouvoir de les recruter et de les licencier, qui leur impose ses directives par des circulaires à la façon d'une administration centrale qui fixe en fait leurs horaires de travail, contrôle régulièrement la qualité de leur matériel et de leurs produits. Ils sont un peu dans la situation de kolkhoziens qui auraient financé leur propre kolkhoz. Découvrir, comme Henri F., que le fils, qui est à la fois la fin de l'entreprise de toute une vie, le but tacitement posé d'un plan de vie laborieusement mené à son terme et la condition sine qua non de sa perpétuation peut renoncer à la succession, c'est voir s'effondrer d'un coup le sens même de toute une existence, rétrospectivement renvoyée à l'absurdité d'un choix initial inconséquent. Le départ de l'héritier signe l'arrêt de mort de l'entreprise agricole. Dire, comme font souvent ceux qui sont placés dans la situation de mes deux interlocuteurs, que la terre est fichue, c'est sans doute la seule façon concevable pour des gens dont l'existence est identifiée à une entreprise agricole condamnée, de parler de leur propre mort, de crier, sans tomber dans le ridicule, la proposition inconsistante et autodestructive du personnage de comédie « Je suis mort ».
L'écho de la misère du monde s'entend toujours quand éclate, en 1995, le grand mouvement social qui répond au projet retraite du Premier ministre Alain Juppé et qui va électriser un courant de pensée français permanent, anticapitaliste, voire antilibéral, qui refuse de voir la modernité dans des réformes abruptes. Pierre Bourdieu, dans les années qui précédaient, n'avait pas été un activiste, laissant ce rôle par exemple à Michel Foucault. Cette fois, il se porte au premier rang, il va même prendre la parole le 12 décembre 1995 devant les cheminots grévistes de la gare de Lyon et suivre de près avec ses élèves toutes les manifestations de cette période.
On ne veut pas de la régression sociale, que l'Europe de Maastricht et l'Europe des gens qui ont du fric veulent mettre en place ici en France. On dit non.
Je ne veux pas travailler 40 ans pendant que j'ai un fils qui est au chômage. À 27 ans, après avoir fait des études.
Les défilés organisés par la CGT dans les banlieues du nord de Paris se sont achevés devant les préfectures. 12 000 personnes y auraient assisté, selon les policiers.
Annick Coupé, alors leader de Sud.
J'ai rencontré Pierre Bourdieu pour la première fois en décembre 1995. Il représentait alors l'engagement des intellectuels qui avaient choisi le soutien au mouvement social. Mais il faut se souvenir que le débat était loin d'être serein à l'époque. D'autres intellectuels s'étaient eux aussi engagés, mais pour soutenir le plan Juppé et la direction de la CFDT au nom de la modernité et de la nécessaire réforme. À ce moment-là, je crois qu'il était fier et ému de se trouver aux côtés des grévistes, qui, nous dit-il alors, par leur mouvement, posaient de véritables questions de civilisation.
Bourdieu avait fustigé les nouveaux gouvernants qui, issus de la noblesse d'État, se considéraient comme détenteurs de droits divins, disait-il, de la raison et de la modernité. Pour eux, en face, c'était la déraison, l'inertie, l'archaïsme. Mais en face, disait Bourdieu, c'était le peuple, et au peuple, il joignait les syndicats et les intellectuels critiques. La CFDT de Nicole Notat ou la revue Esprit, qui avait mené tant de combats auxquels il n'avait pas participé, basculait du mauvais côté dès lors qu'elle disait qu'une réforme de la solidarité était inéluctable et qu'il fallait travailler à lui trouver une traduction politique pérenne plutôt que de refaire un mai 68 triste en décembre, selon la formule de Paul Ricoeur. Philippe Reynaud.
Je ne suis pas sûr du tout qu'il était à l'écoute de ce mouvement, pas plus que d'aucun autre d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il a, il me semble avoir eu assez peu d'informations directes. Il a simplement décidé que ce mouvement représentait le peuple contre ses ennemis ou quelque chose de ce genre. J'ai pas le souvenir, si vous voulez, d'analyse très fine des mobilisations, des modes d'action, sinon que la CFDT était passée du côté de l'ordre bourgeois, ou à peu près. Enfin, donc, en attaquant, il attaquait pas seulement Esprit ou la CFDT, il attaquait délibérément des gens comme Ricoeur, comme à l'époque Rosan Vallon, c'est-à-dire des gens qui occupaient dans le monde intellectuel une position à la fois institutionnelle et politique qu'il s'agissait d'ébranler. Je crois pas qu'il ait eu d'autres considérations que celle-là.
Oui, enfin, en tout cas, le travail de Bourdieu va changer d'échelle. Il a maintenant la puissance de porter le fer dans les grands médias que Serge Halimi nomme les chiens de garde du capitalisme. Son brûlot de 1996 sur la télévision dénonce les intellectuels médiatiques, mais sa notoriété étant devenue à son corps défendant célébrité, il figure maintenant au top niveau des hit-parades de ces intellectuels que les journalistes s'arrogent le droit de dresser. C'est ainsi que sa mort prématurée en 2002 a fait l'ouverture du journal télévisé.
Bonsoir à tous, merci de votre attention. Avant de développer ces titres, la disparition de l'un des intellectuels les plus influents de ces 40 dernières années en France et dans le monde. Pierre Bourdieu est mort aujourd'hui d'un cancer à 71 ans. Son nom vous est peut-être inconnu, mais il était devenu ces dernières années la référence de la gauche dans son combat contre la mondialisation, inégalité face à l'école, misère, discours des médias. Son champ d'intervention était très large, intervention discutée, contestée, mais respectée.
Influence dans le vaste monde, disait David Pujadas. Et oui, le dictionnaire Bourdieu, qui paraît aux éditions du CNRS, publie un certain nombre d'articles consacrés aux États-Unis, où œuvre un de ses meilleurs disciples, Loïc Vacan, et où on est passé d'une approche fragmentaire, la sociologie de la culture, à une réception d'ensemble. Mais il y a aussi un article Allemagne, un article Royaume-Uni, un article Japon, un article Chine, un article Israël. Bourdieu, c'est une influence internationale exceptionnelle.
J'aimerais avoir quelques précisions, monsieur Lebrun. Maintenant, d'autres fronts de lutte se sont organisés. Bourdieu y apporte-t-il encore quelque chose ?
Oui, alors là, vous parlez de son influence dans la durée. L'étude des dominations se nourrit aujourd'hui de nouveaux sujets qu'il n'avait pas nécessairement abordés. Ses travaux concernant le système colonial n'ont pu prévoir l'importance acquise par la mémoire de l'esclavage ou par la racialisation. Le racisme, pour lui, c'était le racisme de classe et le racisme de l'intelligence. Pressentant l'importance que prendrait la question du genre, il a cependant consacré à la domination masculine l'un de ses derniers ouvrages, qui laisse évidemment Philippe Reynaud sceptique.
Bon, je sais pas, c'est une question de goût, mais enfin, l'idée, si vous voulez, que les hommes ont inventé les jupes pour empêcher les femmes de courir, ça me paraît un peu futile. Enfin, il a essayé de prendre ses tournants. Plus ou moins, mais je crois qu'il n'avait pas beaucoup de vraie sympathie pour ça, parce qu'il est... Si vous voyez, c'est quand même quelqu'un dont l'éthos fondamental est assez classiquement marxiste. C'est quand même quelqu'un, me semble-t-il, qui devait penser, comme les auteurs du Manifeste communiste, qu'il y a un antagonisme fondamental qui est celui qui divise les exploités et les exploiteurs. Alors, les luttes culturelles, féminines, etc., ne devaient pas susciter chez lui un grand intérêt. Vous savez, dans le Manifeste communiste, il y a un passage extrêmement brillant où Marx dit que pour détourner l'attention de la division entre le prolétariat et la bourgeoisie, celle-ci a inventé toutes sortes de causes secondaires dans lesquelles il y a les amis des bêtes, les réformateurs de l'alimentation, certains mouvements féministes, etc. Je crains, si vous voulez, que les nouvelles luttes ne vont pas lui inspirer une sympathie spontanée. Cela dit, il aurait pu très bien, parce qu'il était assez malin pour ça, essayer de reconstruire sa position à partir de l'idée d'intersectionnalité, en disant que finalement, dans l'intersectionnalité, on s'y retrouve, c'est que c'est quand même les bons vieux dominants et dominés qui sont toujours là.
Alors, vous avez entendu, intersectionnalité. Intersectionnalité, comment dire, c'est la capacité à mettre des mots sur les différentes identités dominées au carrefour desquelles vous vous trouvez. Gisèle Sapiro.
Je pense que pour lui, les approches en termes d'intersectionnalité, classe, race et genre, seraient absolument compatibles avec sa sociologie. D'ailleurs, un certain nombre de personnes qui se réclament de Bourdieu utilisent ces catégories, et il y a beaucoup de travaux aujourd'hui en études de genre qui se réclament de la sociologie de Bourdieu, de concepts comme habitus, parce que on peut parler aussi de fabrication des habitus féminins. Enfin voilà. Après, bon, il y a ce grand débat sur est-ce que les phénomènes d'ethnicité, enfin de racialisation sont des phénomènes de classe, parce que souvent les minorités racisées sont aussi socialement de classe défavorisée. Et c'est aussi un produit de l'histoire coloniale. Et d'ailleurs, les grands théoriciens de ces dimensions du postcolonial sont eux-mêmes issus des classes favorisées des pays concernés et ont fait leurs études aux États-Unis. C'est un phénomène d'université américaine où on est assez déconnecté en fait du monde social. C'était aussi réinterprétation du marxisme ou alors de rejet du marxisme qui a évacué les questions de classe.
Marxisme et Bourdieu, nous l'avons oublié, mais en Occident, la pensée de Marx était à son zénith quand Bourdieu a construit la sienne avec Marx et contre Marx. Il a lui aussi pensé en termes de rapport de force, mais il a étudié particulièrement la manière dont les acteurs sociaux les intériorisaient pour consentir à de faux consensus. Aujourd'hui, ces consensus éclatent de partout. Mais pour laisser place à des oppositions terme à terme, peuple, élite, qui seront stériles si elles mènent à des issues autoritaires. Et si, comme disait Bourdieu, la sociologie pouvait aider à organiser le retour du refoulé ? Remerciements à Philippe Reynaud, à Gisèle Sapiro, qui dirige un collectif, le dictionnaire Bourdieu, aux éditions du CNRS. Un peu lourd, mais les tarifs postaux pour l'envoi des livres ont été allégés par le gouvernement dans sa grande bonté. Remerciements aux émissions de France Culture, la regrettée Pascal Casanova, Roger Chartier, la voix de Grégoire Roqueplot, les films courts et précieux de Maëva Louis et de Mathieu Zetinjoglou, la prise de son Yves Lehorse, Johan Vincent, à la technique et à la maison de Radio France, Adèle Cagla, les agents d'intelligence service Adèle Caïto, Frédéric Martin, Franck Olivard, et la réalisation Audrey Ripouille. Thank you.